Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoret.
Je vous remercie de participer à ce cours. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette deuxième leçon d'un cours que j'ai intitulé « Introduction au calcul quantique » et qui va vous parler des bases de cette nouvelle discipline, l'information quantique. C'est un domaine extrêmement vaste et je vais me limiter quand même à ses applications pour les circuits supraconducteurs. Mais j'espère, dans ces leçons, vous communiquer l'essence de cette nouvelle discipline. Et surtout, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le regard nouveau qu'elle donne à la mécanique quantique. C'est en examinant ces algorithmes quantiques, qui sont un peu, il faut dire, balbutiants à l'heure actuelle, puisque dans les circuits supraconducteurs, la complexité du circuit va jusqu'à 3 qubits. Dans le domaine de l'optique quantique, dans les ions piégés, c'est un peu mieux, c'est 8 bits quantiques. Donc, ces processeurs quantiques sont encore dans l'enfance, on va dire, mais ils permettent dès à présent de comprendre que la mécanique quantique est plus qu'une théorie bizarre, mais en fait qu'elle a une certaine logique interne qui, du point de vue de l'information, des sciences de l'information, en fait très naturelle. Dans ces leçons, j'espère vous convaincre que, vu du point de vue de l'information, la mécanique quantique est très rationnelle, très naturelle, et c'est plutôt la mécanique classique qui, en fait, serait bizarre. Voilà. Alors, vous avez dû trouver à l'entrée de la salle les transparents du cours, à la fois de cette leçon et de la dernière leçon. D'une manière générale, les transparents du cours et des séminaires sont disponibles sur ce site de la chaire, ici, auquel on accède par le site du collège. Et comme je le fais à chaque cours, j'insiste sur le fait que vous êtes les bienvenus pour nous écrire. Si vous avez des remarques à faire sur le cours, n'hésitez pas, écrivez-nous. Et surtout pendant le cours, pendant la leçon, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Moi, je vous présente ces transparents, mais c'est aussi votre responsabilité d'interrompre à tout moment et de poser des questions. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à faire de la mécanique quantique. La dernière fois, mon introduction essentiellement consistait en des rappels d'informations classiques. J'insistais sur quelques notions de base que je vais d'ailleurs reprendre très rapidement au début de ce cours, simplement pour résumer ce dont on a besoin dans la suite de ces leçons. Alors, tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Dousseau, qui va nous parler d'un sujet extrêmement important qui est la protection topologique des bits quantiques, la façon dont on peut préserver l'information quantique grâce à des relations topologiques dans le circuit. Une remarque importante que je dois faire, une remarque pratique, c'est que le cours s'interrompt pour une semaine, la semaine prochaine, et donc il n'y a pas de cours le 25 mai, mais les leçons reprennent la semaine d'après. Voilà, alors on va commencer, comme je le disais, par rappeler les quelques notions de base qui vont de l'information classique qui vont nous servir dans la suite du cours. Et la première notion sur laquelle je voudrais insister, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'un registre ? Un registre, c'est un ensemble de bits actifs, c'est-à-dire sur lesquels on va faire les calculs. C'est notre feuille de calcul, en quelque sorte. Et là, je prends l'exemple d'un registre très simple avec 10 bits seulement. Et comme vous le savez, donc 10 bits, ça donne 2 puissance 10, 1024 configurations pour le registre. Et il est très utile de voir ces configurations comme des vecteurs. Donc l'ensemble des 0 et des 1, dans ces différentes configurations, vous pouvez les voir comme les composantes d'un vecteur. Donc il y a 1024 vecteurs possibles. Évidemment, classiquement, il n'y en a qu'un seul qui est matérialisé à chaque moment. Mais quantiquement, évidemment, on peut avoir une superposition d'état de ces vecteurs. Alors, considérer qu'un registre contient un vecteur, en information classique, c'est assez pédant. Mais cette façon de voir les choses est absolument nécessaire quand on va prolonger le calcul classique en calcul quantique. Alors, en mécanique classique, l'information est stockée dans un système bistable. Donc, il va y avoir toujours le bit du registre va être caractérisé par une coordonnée, ça peut être une tension, ça peut être un courant. Et cette variable d'état du système a deux minima, et ces deux minima, qui sont des attracteurs parce que le système est dissipatif, vont être la traduction physique de l'information logique. Et évidemment, c'est une remarque triviale. Donc classiquement, ce système est ou bien dans l'état de gauche, 0 par exemple, ou dans l'état de droite, 1. On assure la robustesse de l'information par le fait qu'on prend ici une barrière d'énergie entre le 0 et le 1 suffisamment élevée pour que les fluctuations dues au bruit thermique ou les parasites électriques qui sont caractérisés ici par une énergie de bruit KT, ne puissent que très très rarement faire passer l'état du système d'un puits dans l'autre. Dans un ordinateur classique, la robustesse de l'information est assurée au niveau du bit même. C'est la dynamique du bit qui assure la robustesse de l'information. Bien sûr, il y a des événements très rares, il y a des erreurs très rares, mais ces erreurs très rares peuvent être corrigées par des algorithmes de correction d'erreurs. Cette correction d'erreur est assez optionnelle dans un PC, par exemple. En fait, souvent, les algorithmes de correction d'erreur ne sont pas implémentés. Le système opératif, en fait, défaille plus souvent que l'effacement des bits eux-mêmes dus au bruit. Cette correction d'erreur va être absolument importante, cruciale dans un ordinateur quantique, et ça va être le sujet d'une des dernières leçons de ce cours. Quand on passe du processeur classique au processeur quantique, ce qui se passe, c'est que le système, en quelque sorte, conceptuellement, on peut garder le même système, mais ce qui change, c'est la dissipation. C'est-à-dire que pour que l'information soit encodée quantiquement, il faut supprimer absolument cette dissipation. Et on encode les états maintenant dans les états dynamiques du système. Et par exemple, j'ai pris cet exemple la dernière fois de la molécule d'ammoniac qui est un système aussi bistable qu'on pourrait très bien... Enfin, ce n'est pas un système retenu parmi les candidats possibles pour coder les bits quantiques, mais on pourrait l'imaginer. Et c'est un exemple très commode puisqu'on peut y réfléchir classiquement. Il y a deux états pour cette molécule et elle existe isolée. On peut isoler cette molécule dans le vide et supprimer la dissipation à un point suffisant où apparaissent ces deux états d'énergie qui sont séparés par l'énergie tunnel de passage quantique entre les deux puits. Et donc là, on encoderait le 0 dans l'état fondamental de la molécule et l'état 1, c'est ce premier niveau excité qui correspond à une fonction d'onde antisymétrique, alors que l'état zéro correspond à une fonction d'onde symétrique. Alors, quantiquement, la richesse du système tient au fait qu'on peut non seulement coder de l'information dans ces états 1 et 0, mais on peut réaliser une superposition d'états que l'on écrit de cette façon assez abstraite, alpha 0 plus bêta 1, et c'est les deux coefficients de cette superposition peuvent être représentés comme, comme fournissant les coordonnées d'un vecteur, dit de bloc, qui correspond très simplement à l'image d'un spin, hein, deux niveaux pris à l'intérieur du spectre d'une molécule ou d'un atome, en fait, peuvent être vus comme un spin effectif 1,5. Et ce niveau 0 correspond au spin up. On imagine que le champ magnétique est vertical, pointant vers le haut. Donc, l'état fondamental, c'est spin up. L'état excité, ça va être spin down. Et puis, le spin peut pointer dans n'importe quelle direction. Et ces directions sont encodées par ces deux coefficients alpha et bêta. Et donc, chose très importante, pour utiliser ces deux niveaux comme bits quantiques, il faut qu'il y ait une dissipation très minimale. On verra d'ailleurs plus tard quels sont les critères exacts sur la dissipation résiduelle tolérable. Mais donc, la dissipation doit être très, très faible et le bruit, lui, doit être comparé. L'énergie de bruit doit être maintenant comparée à la différence entre l'énergie de ces deux niveaux. Donc, très brièvement, j'ai rappelé que l'information classique se manipulait au niveau logique par les opérations de l'algèbre de Boole. C'est bien connu, donc addition modulo 2 ici, et puis multiplication. Et l'intérêt du calcul quantique, outre ses possibilités d'application dans la résolution de certains problèmes, c'est que le calcul quantique va pouvoir être vu comme une généralisation de ce calcul booléen. En fait, Charlie Bennett, qui est un des acteurs principaux des débuts de l'information quantique, aime rappeler que, pour lui, en quelque sorte, le calcul quantique est au calcul classique ce que les nombres complexes sont aux nombres réels. C'est très important. Donc, le calcul quantique va contenir ces opérations, mais va nous permettre d'étendre ce mode de calcul, ce qui permet d'offrir une perspective très intéressante en fait sur la façon dont classiquement on résout les problèmes. Et la dernière notion que je voudrais rappeler, qui va servir énormément dans la suite de ce cours, c'est la notion de circuit logique réversible. Donc on va représenter le schéma de calcul exactement à la manière dont les musiciens représentent la musique par une partition. Donc, on a à gauche le registre. On part d'un registre dans un certain état. Et le registre, là, est représenté verticalement. Et j'ai représenté le bit de plus faible poids en haut. Donc, certains auteurs le mettent en bas. Ça, c'est pas vraiment important. Et donc, chaque bit, on va suivre l'évolution de chaque bit par une ligne, donc un peu comme dans la portée d'une partition musicale. Et ce qui va être important, c'est que chaque ligne va se conserver. À la fin du calcul, il y aura autant de bits qu'à l'entrée. Comme on va utiliser un système non dissipatif pour manipuler l'information, ce système non dissipatif conserve l'entropie du système, conserve l'information, et donc il doit y avoir autant de bits porteurs d'information à la fin qu'au début. Par exemple, je vous donne un exemple là, très simple d'une fonction affine qui généralise les fonctions linéaires. Par exemple, dans cette boîte, on va trouver un note pour le premier bit. Donc, ce bit va faire la négation, ce qui correspond à faire une addition de 1 modulo 2. Et là, ces deux bits vont être combinés par cette opération qui s'appelle contrôle note, qui n'est rien d'autre que le OU exclusif réversible. On conserve ce bit numéro 1 ici, mais il va opérer un non sur le bit 2 suivant, s'il est dans l'état 1, et s'il est dans l'état 0, on ne fait rien. Et c'est ce qui se traduit par l'équation ici, où finalement on ajoute au bit numéro 2 le bit numéro 1 modulo 2. Voilà, ça c'est un exemple très simple de boîte réversible. Donc, cette notion de circuit logique réversible correspond en mathématiques à une bijection. On peut dire qu'on établit une bijection de l'ensemble des vecteurs du départ vers l'ensemble des vecteurs d'arrivée. Mais on peut le voir aussi comme un processus conservant l'information ou conservant l'entropie. Donc, mon exemple précédent, c'était une fonction linéaire. Là, en fait, on ne peut pas effectuer tous les calculs possibles avec que des fonctions linéaires. Il faut des fonctions non linéaires. Et ces deux portes à 3 bits, qui sont intrinsèquement à 3 bits, le contrôle note, qui est en fait la version réversible de la porte AND, est une opération qui est universelle. Si on n'a que cette opération, on peut faire absolument tous les calculs. Il y a une opération équivalente qui s'appelle le contrôle swap. On échange ces deux bits ici, si et seulement si ce troisième bit ici est à 1. Cette opération, en fait, a la même puissance que le contrôle note. Elle est aussi universelle, mais elle a le mérite d'être conservative au sens de la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que le nombre de bits à 1 à l'arrivée est égal au nombre de bits à 1 au départ, et ça c'est une opération extrêmement intéressante. Voilà, c'est les notions d'information classique qui vont nous servir par la suite. Voilà un exemple de calcul qui s'effectue un peu plus riche. On a 3 bits ici. À l'entrée, ils se conservent à la sortie. On a besoin de pouvoir faire les calculs en sens inverse, donc on les conserve à la sortie. Mais le résultat du calcul va être contenu dans ces 2 bits nouveaux Y ici, qui vont être en binaire le résultat de la somme de ces bits. Donc, par exemple, si ils sont tous les 3 à 1, donc 1 plus 1 plus 1 égale 3, et 3 en binaire, c'est 1 et 1. Donc, par exemple, on aurait ces deux bits-là à 1 si ces 3 partent avec la valeur 1. Et ce calcul nécessite l'adjonction de 2 bits supplémentaires pour effectuer les calculs, donc ces bits auxiliaires qui interviennent dans le calcul. Alors, ici, j'ai représenté par exemple un exemple du déroulement du calcul pour le cas où le bit 0 est à 1 et le bit numéro 2 est aussi à 1 avec le bit du milieu à 0. Et on voit ici la progression du calcul. Alors, c'est quelque chose que cette façon de voir le calcul comme se déroulant par étapes successives. Vous voyez qu'ici, classiquement, à chaque moment, on peut connaître l'état de ces bits. C'est un calcul qui s'effectue en utilisant un registre à 5 bits. Et on peut à tout moment interroger le système, l'arrêter, et puis connaître l'état de tous les bits. Évidemment, quantiquement, on ne pourra pas nécessairement arrêter le calcul et effectuer la mesure des bits parce que cette mesure va perturber l'état et empêchera le calcul de se faire correctement. Mais on pourra parler quand même de l'état, de la fonction d'onde du système à un instant donné pendant le calcul. Alors, pour justement parler de cette fonction correctement, il me faut introduire de façon beaucoup plus propre cette question de la sphère de Bloch et commencer à vous parler des outils qui vont nous servir, qui sont ces matrices de Pauli. Le but de ces leçons, ça va être de vous présenter les outils du calcul quantique, mais de façon algébrique. Aujourd'hui, je vais vous montrer des matrices. On va voir des matrices, comme vous le savez, le formalisme de la mécanique quantique fait appel aux matrices. Mais dans la suite du cours, je vais éviter ces matrices le plus possible et on aura une vision du calcul complètement algébrique. C'est-à-dire qu'on va manipuler des symboles, exactement comme en algèbre de Boole élémentaire, on manipule des symboles. Eh bien, là, ça va être pareil. On va très vite oublier ces matrices. Alors, je vous rappelle très brièvement comment ces matrices s'introduisent. Donc, un spin ennemi a une fonction d'onde qui est une combinaison linéaire des fonctions là que j'appelle up et down. J'oublie un petit peu les 0 et les 1. On a spin up et spin down. Et vous savez qu'on peut introduire ce qu'on appelle la matrice densité du système, qui est en fait un opérateur. Ça, c'est une fonction d'onde. Là, ici, le rho est un opérateur. Et cet opérateur peut se développer sur la base de 4 projecteurs, qui sont ces objets ici. Et on arrive à la version matrice, au coefficient de cette matrice densité. Ce que j'ai fait ici, c'est que sans perdre aucune généralité, ces coefficients alpha et bêta peuvent s'écrire de cette façon, à l'aide de deux angles, θ et φ, et qui, en fait, le premier est compris entre 0 et pi, et le deuxième, lui, peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 2 pi. Donc, ces deux angles, ici, θ et φ, codent toutes les fonctions d'onde possibles. Et ce codage devient apparent quand on développe cette matrice densité sur les matrices de Pauli, que je vais vous rappeler dans le transparent suivant. Et donc, ici, on arrive à cette décomposition de la matrice densité que l'on peut écrire sous cette façon, sous la forme d'un produit scalaire entre un vecteur S, lui, tout à fait ordinaire, et d'un vecteur qui est constitué par l'ensemble des 3 matrices de Pauli. Et cette opération nous permet de définir de façon rigoureuse ce que l'on entend par ce vecteur ici. Ces considérations permettent d'associer à la matrice densité, cet objet quantique, un vecteur tout à fait classique, S, qui pointe sur une sphère. Un vecteur donc, dont le module est unité. Voilà les matrices de Pauli. Donc, elles ont plusieurs noms. On les appelle des fois sigma 0, sigma 1, sigma 2, ou i, sigma x, sigma y, sigma z. Dans toutes ces leçons, je vais utiliser une notation très commode, très, très aimée des informaticiens quantiques, qui consiste à remplacer ces matrices de Pauli ici par les symboles i, x, y et z, avec des lettres capitales. Vous allez voir que cette notation va se révéler très puissante par la suite. Lorsqu'on lui adjoint un ingrédient supplémentaire que je vais vous donner à la fin de cette leçon. Et ces lettres ici vont, en quelque sorte, elles vont être comprises comme des symboles qui vont généraliser en quelque sorte le 0 et le 1 de l'algèbre de Boole classique. Donc ces symboles vont être très importants. Alors, ces matrices, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce sont des matrices hermitiennes. Leur conjugué hermitien est égal à elle-même. Et ce sont des matrices qui figurent en général dans un hamiltonien, dans l'hamiltonien du système, ou ce sont des matrices qui vous donnent, qui permettent de décrire ce qui se passe dans la mesure. Hein, donc ces matrices hermitiennes vont exprimer l'évolution du système, l'hamiltonien du système et les opérateurs de mesure. Alors je vais introduire d'autres matrices qui sont reliées aux précédentes, qui sont presque tellement égales aux précédentes que dans bien des livres, en fait, on utilise le même symbole, mais ici, pour quand même bien vous montrer la différence, et c'est quelque chose qui va être important par la suite, je vais quand même modifier un peu le X, le Y et le Z. Je vais mettre des crochets droits autour pour montrer qu'il s'agit de matrices légèrement différentes, mais très reliées aux précédentes. Alors ici, dans cet exemple, ici avec un bit, il s'agit simplement de la multiplication de ces matrices de Pauli par moins i, donc une constante donc, qui a l'air très innocente ici, mais qui en fait transforme les propriétés de la matrice, puisque ces matrices ici ne sont plus hermitiennes, elles sont en fait anti-hermitiennes, ou plus important, en fait, elles sont unitaires. C'est-à-dire que leur conjugué ici, en fait, est égal à leur inverse. Et c'est des matrices, c'est un type de matrice qui va nous servir pour faire les portes, les opérations logiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très important par la suite. Ce type de matrice ici, sans crochet, correspond à la, en quelque sorte, va nous décrire l'état du système. Et ces matrices ici avec crochet vont nous décrire les opérations sur le système. Mais vous voyez apparaître quelque chose de très important qui fait toute la beauté de la mécanique quantique, c'est qu'il va y avoir une correspondance très étroite, en fait pratiquement une bijection, entre les opérations sur le système et les variables qui décrivent l'état du système. Un état en mécanique quantique est extrêmement proche d'une opération. Les deux, on peut passer de l'une à l'autre très, très directement, ce qui n'est absolument pas le cas en mécanique classique. Si vous prenez par contre le fonctionnement d'un ordinateur, en informatique, cette notion correspond au fait que dans la mémoire d'un ordinateur, vous représentez de la même façon les données et les programmes. Un ordinateur peut prendre des bits et les considérer à la fois comme données et comme programmes. Il y a une identité en informatique, il y a un mélange en informatique qui est à la base de la puissance, c'est très important, c'est à la base de la puissance de l'information. On dit aussi que le système est capable d'autoréférence. Donc les données et les programmes ont des encodages parallèles. Bon, là, c'est quelque chose qu'on va trouver ici en mécanique quantique, de façon très naturelle. Alors, très, très, très rapidement, donc vous savez que la matrice d'anticité et l'hamiltonien, ce sont des opérateurs hermitiens. Un opérateur qui est plutôt unitaire, c'est l'opérateur d'évolution, qui en fait correspond à l'intégrale de l'hamiltonien, une intégrale un peu spéciale. Ici, il y a ce symbole T qui est là pour vous rappeler que cette intégrale doit être calculée de façon spéciale si l'hamiltonien ne commute pas avec lui-même d'un instant à l'autre. Avec cet opérateur d'évolution, vous pouvez faire évoluer l'état. Donc la matrice densité en état T est obtenue par cette opération qui s'appelle conjugaison, où on prend en sandwich la matrice densité à l'état initial et on lui adjoint deux copies de l'opérateur d'évolution, une copie normale et une copie inversée. Voilà une observable, un opérateur qui décrit une observable qui, lui, est éternicien. Donc, vous voyez, il y a, en mécanique quantique, il y a un mélange d'opérateurs hermitiens ou unitaires. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs, c'est important de rappeler que vous ne pouvez pas, si vous êtes une matrice, être à la fois hermitien et unitaire, sauf si vous êtes l'identité. L'identité est la seule matrice qui est à la fois hermitienne et unitaire. Et voilà le postulat principal de la mécanique quantique qui vous permet de calculer à un instant t la valeur, le résultat d'une expérience, la valeur moyenne de cet observable qui fait intervenir donc la trace de quatre opérateurs, finalement. L'opérateur décrivant l'observable que vous voulez mesurer et la matrice densité au temps initial, et puis donc ces deux copies de l'opérateur d'évolution. Il y a deux façons d'écrire cette trace, d'ailleurs, et ces deux façons d'écrire la trace correspondent au point de vue de Schrödinger ou de Heisenberg en mécanique quantique. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une notion très importante qui est la notion de points cardinaux sur la sphère de Bloch. Il va y avoir six fonctions d'onde, six états qui vont jouer un rôle particulier. Vous en avez deux qui sont les états de base, l'état 0 et l'état 1, qui correspondent aux pôles. Mais il va y avoir quatre états sur l'équateur qui vont aussi jouer un rôle très important. Donc, j'ai rappelé ici leur fonction d'onde. Par exemple, cet état qui pointe suivant X, ici, c'est la combinaison, la superposition symétrique 0 plus 1, normalisé pour que le vecteur soit de longueur 1, et la combinaison antisymétrique pointe suivant moins x. La particularité de ces six états, c'est qu'ils forment une espèce de squelette de la sphère de Bloch. Si vous gardez ces quatre états sur la sphère, ces six états sur la sphère, vous pouvez garder la topologie de la sphère avec un nombre minimum d'états. Si vous prenez moins d'états, en fait, eh bien, vous ne pourrez pas rendre compte de cette topologie sphérique. 6, c'est le nombre minimum. Une autre façon de voir ces états, c'est qu'ils sont séparés par des rotations de 90 degrés ou de 180 degrés. En tout cas, toujours est-il que la propriété de ces six états, c'est qu'ils ont des valeurs très particulières si vous mesurez le spin suivant Z, X ou Y. Vous aurez soit plus 1, soit moins 1, soit 0. Il n'y a jamais de valeur intermédiaire. C'est extrêmement pratique. Donc, ces états, si vous les mesurez, vous n'ont que trois réponses possibles, plus 1, 0 ou moins 1. Alors, donc, maintenant, on peut, par exemple, on vient de voir l'utilisation des opérateurs hermitiens sur ces états. Maintenant, si on prend ces opérateurs unitaires, si on prend Z, par exemple, la rotation autour de Z, et qu'on l'applique à un de ces états, si on part de cet état, on va obtenir l'état opposé. Mais vous voyez qu'il s'introduit un facteur de phase ici qui peut paraître secondaire, mais qui va jouer toute son importance dès qu'on va avoir plus d'un bit quantique. Là, au niveau de... Si on se limite à un seul bit quantique, ce facteur de phase ici qui est devant la fonction d'onde n'a aucune importance. Mais dès qu'on va considérer plus d'un bit, il va falloir tenir compte de ces facteurs de phase. Et c'est important de bien suivre ce que fait exactement cet opérateur d'évolution. Donc, cette idée des facteurs de phase nous entraîne à considérer la fonction note. On va faire une fonction très simple. Et vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs façons d'effectuer cette fonction. En effet, faire le nom pour un bit quantique, c'est finalement retourner le spin. S'il pointe up, c'est le faire pointer down. S'il pointe vers l'est, c'est de le faire pointer vers l'ouest. Alors, comment fait-on ça? Bon, si votre spin pointe vers le nord, vous pouvez le faire tourner en faisant agir sur lui un champ magnétique qui est dans le plan horizontal, et le spin va précesser autour de ce champ. Donc, si vous effectuez cette précession de façon à faire exactement un demi-tour, vous allez effectuer cette opération X. Alors là, ici, je n'ai pas mis de crochet droit autour de X, j'ai mis X dans une boîte. C'est la même chose sur les dessins. Dans les équations, cette opération de retournement autour de X sera notée X crochet, mais sur un dessin comme ça d'un circuit logique, ça sera tout simplement un X dans une boîte. Donc voilà une première façon de faire nom. On peut faire tourner le spin autour de X, mais vous voyez qu'il existe une façon orthogonale, une deuxième façon de faire nom, qui consiste à faire tourner le spin autour de Y cette fois-ci, et non pas autour de X. Le résultat final est le même, mais vous voyez, si vous regardez la fonction d'onde, en fait, il y a une différence. Ici, vous multipliez la fonction d'onde par moins I, et ici, vous la multipliez par 1. Là encore, au niveau d'un spin unique, ça n'a aucune espèce d'importance, vous obtenez exactement la même chose, mais dès qu'on va combiner les bits entre eux, ces deux façons de faire nom, qui peuvent en fait interférer l'une avec l'autre, va être importante. Il y a en fait une autre opération qui n'a pas d'équivalent logique classique, mais qui est un peu aussi équivalente à un nom, c'est la rotation autour de Z. Si vous appliquez cette fois-ci un champ non pas dans le plan équatorial, mais un champ dirigé suivant le nord, vous allez faire tourner, si votre bit maintenant, au lieu d'être de pointer up ou down, s'il est initialement suivant X, il va précesser autour de ce champ et se retourner. C'est le bit flip, c'est le phase flip, c'est un saut de phase qui n'a pas d'équivalent classique, mais qui, vous voyez, sur le plan quantique, est absolument à mettre sur exactement le même plan que les deux noms dont je viens vous parler. En fait, il y a, on peut dire, trois façons de faire nom pour les bits quantiques. Une rotation de pi va pouvoir se faire autour de X, autour de Y ou autour de Z. Alors, si on prend maintenant ces rotations de pi, eh bien, elles vont former un groupe. Ce groupe est très important. La table de ce groupe, je ne l'ai pas donnée ici parce que c'est une table 8 par 8 qui ne vous apprend pas grand-chose, mais les règles sont très simples. Si vous voulez penser à la façon dont on combine ces éléments, il faut penser à la multiplication vectorielle de vecteurs unitaires. Le vecteur unitaire suivant Z, si vous le multipliez vectoriellement avec le vecteur unitaire suivant X, vous obtenez le vecteur unitaire Y. Ça, c'est un moyen mnémotechnique très facile, très, très utile pour effectuer toutes ces multiplications de ces rotations quantiques. Ces rotations quantiques, j'insiste bien sur le fait qu'elles ne sont pas strictement équivalentes à des rotations classiques. Parce que si vous effectuez cette rotation deux fois, si vous effectuez ce nom deux fois, vous n'obtenez pas exactement l'état initial. En fait, si vous élevez ces rotations au carré, vous obtenez non pas l'identité, mais moins l'identité. C'est-à-dire que votre fonction d'onde ne va pas revenir exactement à l'identique, elle va se trouver multipliée par le facteur de phase moins 1. Encore une fois, si vous n'avez qu'un seul bit, ce facteur de phase n'est pas important, mais dès que vous avez à avoir plus d'un bit, ce facteur de phase va être extrêmement important. Alors, l'ensemble de toutes les combinaisons possibles de ces opérations non, ici, forme un groupe qui s'appelle le groupe des quaternions, qui a 8 éléments et qui est un groupe absolument fondamental et très fascinant en mathématiques. Et je vais vous parler de ce groupe un peu plus dans quelques transparents, en plus en détail, mais avant de vous parler de la façon mathématique de voir ce groupe, je voudrais vous expliquer comment, en pratique, on effectue ces rotations. Qu'est-ce que concrètement on fait dans le circuit pour effectuer ces opérations ? Une petite remarque avant de passer à ces considérations pratiques. Il y a ce qu'on appelle aussi le groupe de Pauli. Le groupe de Pauli, lui, part des matrices hermitiennes et non pas des matrices unitaires. Et puis examine toutes les façons de les combiner et on arrive à ce groupe, à un groupe qui est plus large que le groupe des quaternions qui a 16 éléments, n'est pas 8. Et là, on ne va pas du tout parler de ce groupe aujourd'hui, on en parlera longuement dans la leçon prochaine. Voilà en pratique comment on va effectuer les opérations. Donc ce spin dont on dispose, on va le plonger dans un champ magnétique effectif, variable. Alors pour ces circuits, ça correspond tout simplement à envoyer des tensions et des courants sur le circuit. Et ces tensions et les courants vont se coupler au bit quantique et représenter des champs variables dans le temps. Et des champs qui vont avoir des composants. On se débrouille pour qu'il y ait toujours une composante suivant Z et une composante suivant un des opérateurs X ou Y. Et donc, cette valeur oméga 0,1, ça c'est une valeur statique qui correspond à la fréquence de la mort du bit quantique, mais cette valeur du champ oméga parallèle, vous voyez, je prends une convention ici qui est très utilisée en résonance magnétique nucléaire, c'est d'utiliser pour la mesure de ces champs une fréquence, en fait. On traduit pour la valeur du champ est donnée simplement par la fréquence de précession du spin autour de ce champ. Donc ici, elle est donnée en la valeur de la composante variable suivant Z est donnée par cette fréquence oméga parallèle. Et la fréquence, le champ appliqué suivant X, lui, varie. En pratique, c'est un champ oscillant à la fréquence de Larmor et qui a une enveloppe qui est appelée ici oméga perpendiculaire, et cette enveloppe contient aussi une phase phi de t, ici, qui est dans la fonction sinusoïdale. C'est quelque chose de bien connu en RMN. Si vous passez dans le référentiel tournant, qui tourne à la fréquence de Larmor avec le spin, eh bien, vous pouvez simplifier considérablement l'hamiltonien si vous négligez certains termes oscillants rapidement et vous ramenez un hamiltonien qui dépend que très lentement du temps, un hamiltonien dont, si vous voulez, les composantes effectives vont être cette fonction oméga parallèle ici. Et puis, le champ perpendiculaire, oméga perpendiculaire, va vous donner, avec l'adjonction de ces facteurs de phase ici, les composantes suivant x et y dans le référentiel tournant. Donc c'est extrêmement pratique, simplement en appliquant une irradiation au spin d'amplitude et de fréquence et de phase contrôlées, ce qui est tout à fait possible avec un bon générateur micro-ondes, eh bien vous pouvez imposer pour le spin les champs suivants x, y et z. Donc vous contrôlez finalement complètement le champ effectif vu par ce spin. Donc voilà en pratique à quoi ressemblent ces impulsions radiofréquences qui vont avoir une fréquence de l'ordre de quelques gigahertz et qui vont durer quelques nanosecondes. Donc ce que j'appelle oméga perpendiculaire de T, c'est l'enveloppe de ce signal. Oméga 0,1, c'est la fréquence. Et appliquer un champ plutôt suivant X ou suivant Y se fait en modulant une porteuse ici, qui est représentée par ces oscillations bleues ici, et en découpant, en modulant ce signal en phase, ce qui est représenté ici. Ça va vous faire une rotation autour de X. Et si vous décalez en phase par 90 degrés, vous voyez l'oscillation ici est en fait en quadrature, eh bien vous allez tourner autour de Y. Voilà en pratique comment on applique les champs au bit, comment on applique une rotation au bit quantique et comment on va finalement effectuer toutes ces opérations. Comment vérifie-t-on en pratique que tout marche bien ? Eh bien, si on applique une impulsion radiofréquence à la fréquence de Larmor et qu'on fait durer cette impulsion pendant un temps tôt, on peut mesurer après l'impulsion la valeur moyenne du spin suivant Z, c'est-à-dire regarder s'il est dans l'état 0 ou 1. Et si on mesure cette valeur moyenne en fonction du temps du pulse, on aura ce phénomène d'oscillation appelé oscillation de Rabi. On fait tourner le spin autour d'un méridien. Et ces points ici, ces points d'intersection de cette courbe avec le zéro aussi, ou les valeurs extrêmes ici, définissent si vous avez une rotation de pi. Alors, une rotation de pi, le note s'obtient en prenant cette durée d'impulsion qui vous permet de retourner le spin ici, d'obtenir ce maximum. Mais si vous voulez faire la moitié du non, racine de non, eh bien vous devez vous arrêter à un temps intermédiaire qui vous donne ce point ici, et où vous passez de cette valeur 1 à la valeur 0. Donc, vous pouvez aussi faire un autre type de racine de non. Vous pouvez faire durer l'impulsion ici de façon à faire une rotation de 3 pi sur 2, ce qui va durer 3 fois plus de temps, en gros, qu'une impulsion de pi sur 2. Vous voyez, vous pouvez faire aussi ces fameuses rotations de 2 pi qui ne sont pas censées laisser le spin exactement dans l'état initial en appliquant ces impulsions pendant une période entière de ces oscillations de Rabi. Voilà, je voulais vous montrer un peu, on reviendra sur ces différentes manipulations par la suite, mais je voulais vous montrer que ces opérations quantiques sont en fait très concrètes. Il s'agit d'envoyer des signaux radio, finalement radiofréquences, à nos circuits. Et on fixe le temps d'application et l'amplitude du signal va fixer l'axe de la rotation et puis l'angle de la rotation. Alors, j'ai parlé du racine de non. Donc, la racine de non, c'est une rotation de pi sur 2. Et c'est là où vont l'utilisation des crochets droits va se révéler utile. Ça deviendra encore plus utile par la suite. Mais déjà, vous voyez l'avantage, c'est que si vous élevez une rotation de pi à la puissance 1,5, vous avez une rotation de pi sur 2. Donc, il est tout à fait naturel de noter une rotation de pi sur 2 de cette façon. Et voilà, dans le langage matriciel, à quoi la matrice de rotation ressemble. Et vous allez voir que ces représentations matricielles vont devenir de plus en plus opaques et en fait, on va vite les abandonner parce que quand vous contemplez ces matrices, en fait, elles ne vous disent absolument rien. C'est impossible de deviner le résultat des calculs en gardant ces matrices. Il faut vraiment utiliser programme Mathematica, faire les opérations, mais même à la fin, une fois que vous multipliez toutes ces matrices, vous n'avez pas forcément compris ce qu'elles font. Et donc, je vous les indique ici encore quelques fois, mais on va bientôt complètement les abandonner. Alors, justement, pour avoir une représentation vraiment algébrique, utile, performante de ces opérations quantiques logiques, il nous faut comprendre vraiment en profondeur ce que fait ce groupe des quaternions. Alors, comme vous le savez, les quaternions ont été inventés par Hamilton pour généraliser les nombres complexes, hein, où une rotation dans le plan peut s'écrire comme l'exponentiation imaginaire d'un angle θ, ici. Ça, c'est bien connu. Les quaternions généralisent ceci en remplaçant cet angle ici qui est réel par un angle qui est matriciel. On exponentie une matrice ici, une matrice qui est obtenue en combinant linéairement les trois opérateurs de Pauli. Et donc, une représentation très utile de cette exponentiation matricielle, ici, fournie par cette formule qui, vous voyez, ressemble beaucoup à cette formule de Moivre des nombres complexes. En quelque sorte, on peut dire qu'ici, on a fabriqué un nombre hyper complexe qui représente une rotation à trois dimensions d'angle θ, ici, et d'axe n. Par exemple, ces rotations autour de x, y et z, je les ai représentées ici à l'aide de ces matrices écrites dans cette nouvelle notation, x, y et z. L'exponentiation imaginaire de ces matrices de Pauli x, y et z nous fournit les rotations autour de x, y et z. Et donc, d'une manière générale, ces rotations peuvent être notées comme de cette façon. On peut prendre la matrice ici qui effectue une rotation de pi et l'exponentier et lui donner cet exposant fractionnaire θ sur pi. Ces matrices de base de rotation de pi forme un groupe à 8 éléments qu'on peut représenter de cette manière très utile. Donc voilà les 8 éléments. Alors pour simplifier les notations, ici au lieu de mettre grand X, grand Y, grand Z entre crochets, j'ai utilisé ces symboles ici sur ce graphe pour que ça prenne moins de place. Ce que ce graphe vous dit, c'est que vous indique les règles de composition, c'est une représentation graphique de la table du groupe. Si vous partez de 1, vous pouvez faire agir deux générateurs. Le premier générateur est Z, le second générateur est X, et en appliquant ces générateurs, qui sont représentés par ces flèches soit bleues, soit rouges, vous pouvez atteindre n'importe quel élément du groupe. Bien sûr, ces deux générateurs ici ont été choisis de manière arbitraire. Vous pouvez prendre soit le couple XY, soit le couple YZ, soit le couple ZX. J'ai listé ici une propriété très importante de ce groupe. En fait, si vous prenez tous les groupes finis, un petit nombre d'éléments, ce groupe à 8 éléments joue un rôle très particulier. On sent que c'est le groupe vraiment qui permet de bâtir la mécanique quantique. Il a une propriété, il est défini comme le plus petit groupe non commutatif dont tous les sous-groupes sont normaux. Donc cette proposition mathématique très obscure, en fait, cache une très grande richesse et qui est absolument cruciale pour la mécanique quantique. C'est cette propriété qui permet cet isomorphisme entre les objets qui représentent les mesures, les états, et les objets qui représentent les opérations. Et donc, en fait, une façon de justifier la mécanique quantique, en quelque sorte, c'est de s'apercevoir que si vous prenez un groupe plus petit que celui-ci, eh bien, vous ne pourrez pas trouver cette propriété. Vous ne pouvez pas démarrer de mécanique quantique si vous prenez moins d'éléments que 8. Une façon beaucoup plus utile de représenter le graphe de ce groupe, c'est de cette façon. En utilisant ce graphe, je vous l'avais représenté de façon planaire. Là, je vous le représente ce graphe de manière tridimensionnelle. On comprend beaucoup mieux ici quel est le lien de ce groupe avec la géométrie à trois dimensions. Maintenant, les points de ce groupe sont représentés en utilisant deux cubes, l'un dans l'autre. Et on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi, ce générateur Z, finalement, va représenter les rotations autour de Z, et que cet autre générateur X représente des rotations autour d'un axe qui est perpendiculaire à Z. Ça se voit beaucoup mieux sur cette figure. Ce que l'on voit aussi maintenant beaucoup mieux sur cette figure, c'est que les deux sous-groupes ici qui sont en bleu, le sous-groupe qui est engendré par Z et ce sous-groupe image qui est ce sous-groupe ici, mais auquel on adjoint X, eh bien, ces deux sous-groupes vont représenter les deux états 0 et 1 du bit quantique. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. C'est que je vous ai dit que l'information quantique est représentée par des états dynamiques, pas par des états statiques. C'est un système dynamique qui effectue certains mouvements, et ces mouvements, l'ensemble, une orbite complète de ce mouvement représente un état. On code l'information avec des orbites. Donc ces orbites, mathématiquement, ça correspond à des sous-groupes. Et donc ce sous-groupe ici code pour 0 et ce sous-groupe ici code pour 1. Mais non, c'est stationnaire de l'énergie, mais ce n'est pas vraiment stationnaire du mouvement complètement. C'est pour l'énergie est conservée lorsque vous effectuez ce mouvement. Mais il y a une dynamique. La phase tourne. Quand on est dans un état stationnaire de l'énergie, le système bouge quand même. Il accumule un facteur de phase. Et donc, vous voyez un peu la correspondance. Classiquement, un bit, c'est représenté par un attracteur, quelque chose de statique. Ici, quantiquement, la valeur du bit correspond à un état dynamique. Oui, absolument. Oui. Il faut. Oui, c'est cette façon de... Voilà. Dans ce groupe quaternionique, vous avez encodé la valeur 0 ou 1 en spécifiant deux sous-groupes qui n'ont pas d'éléments en commun. Mais justement, cher Denis, il y a cette bijection très profonde entre état et opération. Ça va devenir plus clair. Hein, c'est pas c'est on examine pour l'instant les propriétés du groupe des quaternions et puis on va voir par la suite comment ces propriétés permettent de comprendre cette correspondance entre état et opération. Alors, ce dessin, là j'arrive à la démonstration, ce cours contient une démonstration qui est il faut faire 4 rotations de pi pour revenir au point de départ, hein. Et une façon de comprendre cette propriété du groupe des quaternions, c'est que si vous imaginez un cube, un petit cube dans un grand cube ici, et vous avez mis des élastiques entre les coins du cube. En fait, vous pouvez montrer que si vous faites une rotation de pi de ce cube interne, eh bien, topologiquement, vous avez un état différent de l'état de départ. C'est très simple, vous avez emmêlé les ficelles, en quelque sorte. Et comme vous le savez sans doute, si vous effectuez un autre tour, un deuxième tour, à ce moment-là, magiquement, les ficelles, vous pouvez les dénouer et revenir à l'état de départ. Alors, j'ai pas de, mon matériel est plus modeste. Je vais vous faire cette expérience avec cette boîte de Kleenex. Elle est très pratique parce que, vous voyez, il y a un côté jaune et un côté bleu. C'est tout à fait utile pour représenter un spin. Mettons, on va dire que le côté jaune, c'est la flèche. Donc, je pointe la flèche vers vous et je vais faire un tour, une rotation de pi. Donc, voilà une rotation de pi. Alors, vous voyez, mon bras est dans une position très inconfortable. J'ai emmêlé les ficelles. Vous pouvez imaginer que finalement, les ficelles, je les ai toutes. J'ai sorti le cube bleu du grand cube, j'ai ramassé les ficelles, ça fait le bras. Maintenant, pour vous convaincre qu'effectivement, on peut démêler les ficelles, si on fait un autre tour, je vais faire effectivement un autre tour. Et là, je reviens à la position de départ. Donc, en fait, lorsque vous tournez un objet de 360 degrés sur lui-même et que cet objet reste relié au reste du monde, en fait, vous n'êtes pas revenu dans l'état initial. Il vous faut une deuxième rotation de 360 degrés pour revenir à l'état initial. Donc, vous voyez que cette propriété du groupe des quaternions n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, de mathématique et d'artificiel, c'est qu'en fait une propriété de la nature très fondamentale. Voilà, donc là j'arrive à la fin de cette leçon, je vais juste continuer pendant quelques minutes, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on va faire dans la leçon suivante. Donc pour l'instant, je me suis concentré sur un bit, ça reste extrêmement simple et assez pauvre, il faut dire, tout l'intérêt va apparaître lorsqu'on va parler de plusieurs bits. Et la façon dont ça va se passer, c'est la suivante. Donc je prends là ces 6 points cardinaux de la sphère, et je vais maintenant imaginer que la sphère, j'aplatis la sphère et je la transforme en octaèdre, et puis après cet octaèdre je vais l'aplatir pour le représenter à deux dimensions, et donc il a fallu que j'épluche comme une orange l'octaèdre, et donc pour le mettre à plat, et donc ce sommet rouge ici, il a fallu que je le coupe en quatre. Il se trouve comme ça à l'extrémité du graphe. J'ai mis à plat la sphère et j'obtiens un graphe qui correspond à ces 6 états. Évidemment, celui-ci 1, il est répété 6 fois, mais bon, cette surface courbe, lorsqu'on la met à plat, il y a toujours, vous savez, toujours des défauts, mais ça permet ici de bien comprendre les relations entre les différents états, parce que chaque lien, chaque segment ici correspond à une rotation de pi sur 2. Et lorsque vous effectuez deux rotations de pi sur 2, par exemple en allant de 0 à 1 par ce chemin, eh bien, vous aurez fait une rotation de pi. Donc, ce graphe vous montre combien il faut faire de rotations de pi sur 2 pour passer d'un état à l'autre. Donc, voilà le graphe correspondant à un bit. Il est très simple. Mais cette représentation va nous servir à vous indiquer ce qui se passe lorsque, tout simplement, je prends 2 bits. Donc, ce n'est pas encore beaucoup, mais vous voyez, le graphe devient extrêmement touffu, un petit peu la forme d'un chou-fleur. Il y a en fait maintenant 3 directions possibles, parce que la sphère équivalente à 2 bits n'a plus 2 pôles, mais 4. Donc quand je pars de cet état 0, 0, en fait, je peux aller en direction de, maintenant de 3 pôles possibles. Et vous voyez, il y a une richesse considérable qui s'introduit. En fait, si vous comptez ce nombre d'états cardinaux, qui s'appelle aussi des états de Clifford, eh bien, vous en trouvez 60. Il y a 60 états possibles. Et d'une manière générale, le nombre d'états croît extrêmement rapidement lorsque vous augmentez le nombre de qubits. Par exemple, pour 3 qubits, eh bien, là, la figure comprendrait 1080 états. En fait, c'est une figure et c'est un monstre que je n'ai pas représenté. Et simplement donc, en se limitant à ces états qui représentent le squelette de l'espace de Hilbert, donc on oublie la peau continue entre les os, hein, on se limite à ces états qui représentent la topologie de l'espace de Hilbert sans tout représenter, eh bien, vous voyez déjà, on a une croissance phénoménale du nombre d'états. En fait, l'information quantique contenue dans ces états, si on prend le log de ce nombre d'états, en fait, on a un nombre qui croît comme le nombre de qubits au carré, c'est-à-dire que l'information est non extensive, elle est super extensive. Lorsque vous doublez le nombre de qubits, en fait, vous allez quadrupler, et ainsi de suite, vous allez quadrupler ce nombre de points. Et donc, ces représentations sont très utiles. Elles permettent de comprendre ce que font ces calculs quantiques de manière beaucoup plus concrète. Et surtout, juste en utilisant un symbolisme très pratique de calcul qui évite toutes ces opérations matricielles opaques. Voilà. Donc, je vais arrêter la leçon ici. Ici, je voulais vous simplement finir en vous indiquant une notation qui va nous servir énormément par la suite. C'est que toutes les fois où maintenant on va considérer des opérateurs à plusieurs bits, non pas un bit à la fois, mais deux ou trois ou plus, eh bien on va noter les matrices de Pauli correspondantes que traditionnellement on représente en donnant le produit de ces matrices ici, avec un exposant qui vous donne le numéro du bit quantique. Ici, on a cette notation raccourcie qui ressemble beaucoup à la notation des nombres. On utilise la position du symbole pour représenter le bit sur lequel il opère. C'est une notation très condensée qui va nous servir par la suite et qui a aussi un énorme avantage qui est démontré ici, c'est qu'un opérateur à 1 qubit, comme celui-ci, qui agit sur le qubit 1, ou un opérateur à 3 qubits, comme celui-ci, qui agit sur les 3 à la fois, eh bien, est représenté par le même type de symbole. Il y a toujours 3 symboles, quelle que soit l'opération que vous faites lorsque vous travaillez sur 3 qubits. Et cette homogénéité, cette mise sur un plan des qualités de toutes ces opérations à 1, 2 ou 3 qubits est en fait absolument cruciale. Et c'est quelque chose qui va nous servir énormément par la suite. Et je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.